Bien, je vous invite donc à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 21. Nous allons lire les versets 9 à 14. Apocalypse 21, nous lisons donc les versets 9 à 14. Voici la parole de Dieu. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint. Et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et aux portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'orient, 3 portes, et au nord, 3 portes, au midi, 3 portes, et à l'occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Nous avons vu donc Jean décrire la nouvelle création au début de ce chapitre, la nouvelle terre, les nouveaux cieux et ceux qui y habiteront. Et nous avons vu que Dieu va certainement accomplir ce qu'il dit parce qu'il est un Dieu de vérité, un Dieu de vie, un Dieu de justice. Et dans le reste de l'Apocalypse, à part les tout derniers versets du chapitre 22, dans le reste de ce livre, nous avons la description de la Nouvelle Jérusalem, premier mot sur la feuille, la description de l'Église, de la cité qui a de solides fondements, dont Dieu est l'architecte et le constructeur, selon les paroles de la lettre aux Hébreux, chapitre 11. Et d'ailleurs, l'auteur de cette lettre aux Hébreux nous rappelle qu'Abraham attendait de voir cette cité. Dieu lui avait donné des promesses, mais elles n'ont pas été accomplies pendant sa vie. Hébreux 11, versets 8 à 9, l'auteur nous dit, « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère. » Habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Pourquoi est-ce qu'Abraham a continué? Pourquoi est-ce qu'Abraham n'a pas abandonné? Parce que Abraham, par la foi, a vu cette destination qui était au-delà de cette vie. Une destination qui n'est pas polluée par la chute, par la malédiction, par la futilité de ce monde. Et le verset 10 d'Hébreux 11 décrit cela de merveilleusement bien. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et ici, nous avons tous ceux qui suivent Abraham par la foi, ceux qui, selon Galates 3, 7, sont les fils d'Abraham, qui partagent la même foi qu'Abraham et qui arrivent à cette même destination. Nous aussi, avec la foi, la même foi d'Abraham et avec cette vision que nous avons ici, que nous donne l'apôtre Jean. Nous pouvons attendre cette cité qui a de solides fondements et nous pouvons nous encourager dans notre pèlerinage sur terre, dans notre voyage. Nous qui sommes étrangers, voyageurs, et comme nous avons lu dans la lettre aux Colossiens, nous pouvons nous encourager à ne pas nous attacher à ce monde, mais à fixer nos regards sur les choses d'en haut. Et l'apôtre, l'apôtre Jean commence par nous décrire l'invitation de l'ange. C'est le premier point de ce message. Mais tout d'abord, je voudrais simplement vite faire un rappel. Nous avons dit que le livre de l'Apocalypse est divisé en 7 tableaux. Et chaque tableau couvre toute l'histoire de l'Église. Et plus on avance, plus on passe de temps sur les choses de la fin. Et le dernier tableau, le septième tableau qui couvre les chapitres 20 à 22, nous avons vu que l'histoire de l'Église est résumée dans les premiers versets du chapitre 20. Et tout le reste, du chapitre 20, le chapitre 21, le chapitre 22, vont nous parler de, d'abord du jugement, et ensuite de ce qui vient après, des nouveaux cieux, la nouvelle terre, et maintenant la nouvelle Jérusalem. Ça, c'est la division, donc sept tableaux. Mais dans le livre, il y a aussi des événements. Quand il y avait quelque chose de vraiment important ou de plus important à souligner, Jean est invité par l'ange à venir voir ces choses. Par exemple, au chapitre 4 et verset 1, Jean est appelé au ciel pour voir toutes ces visions qu'il nous explique dans les chapitres suivants, qui couvrent l'ère de l'Église. Tous les tableaux 2 à 5, si vous voulez, dans notre division, pour voir l'histoire selon la perspective céleste. Au chapitre 17, Jean est à nouveau appelé au ciel pour voir, pour qu'il soit le témoin du jugement, de la destruction des ennemis du Seigneur Jésus-Christ. Et donc ici, maintenant que l'histoire s'est déroulée, que le jugement a été exécuté sur les ennemis du Seigneur Jésus-Christ, et que la Bible arrive à sa conclusion, Jean est invité à voir la glorification du peuple de Dieu, de l'Église, deuxième mot sur la feuille, de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, de l'épouse du Seigneur. Il est intéressant que Jean souligne au verset 9 que l'ange qu'il appelle est un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept derniers fléaux. Et on peut se poser la question, mais pourquoi les anges, l'ange de la colère de Dieu est-il toujours là, étant donné que la colère a été déversée sur les ennemis? Et un commentateur propose une réponse intéressante. Il dit qu'en fait, c'est la récompense. Les anges ont fait, comme on dit, le sale boulot. Ils ont exécuté le jugement de la colère de Dieu. Maintenant, ils sont appelés, ils sont les témoins, et ils annoncent le grand final de la rédemption, Dieu avec son peuple, dans la nouvelle Jérusalem. Mais de notre point de vue, ces anges nous rappellent que l'accomplissement du dessein de Dieu implique à la fois le jugement et le salut. Et c'est quelque chose qu'il faut souligner, parce que certaines personnes aujourd'hui qui se disent chrétiennes, peut-être certaines le sont, mais ne veulent pas, ces personnes ne veulent pas parler de jugement. Et ces personnes pensent que cela va nuire à leur témoignage. Ils ne veulent que parler de la bonne nouvelle du salut. Mais la bonne nouvelle du salut est bonne parce que la mauvaise est mauvaise. L'Évangile parle à la fois de l'œuvre du jugement sur le péché, mais aussi du salut des pécheurs par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Et la bonne nouvelle est bonne, parce que la mauvaise est très mauvaise. Nous devons proclamer les deux, et nous avons vu que l'Apocalypse le fait. L'Apocalypse proclame les deux. C'est le même ange qui, en chapitre 17, verset 1, a parlé de la condamnation et la destruction de la grande prostituée Babylone. Et donc sa présence nous rappelle qu'ici, il n'y a que deux catégories de personnes. Troisième mot sur la feuille. Il n'y a que deux catégories de personnes. Ceux qui ont décidé de suivre la grande prostituée Babylone, ce monde rebelle à Dieu et tous ses plaisirs charnels, et ceux qui refusent de suivre Babylone et qui font partie de l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, qui souvent, contrairement à la grande prostituée, ceux qui font partie de l'Église souffrent aujourd'hui parce qu'ils s'éloignent, ils désirent s'éloigner du péché et considérer les choses d'en haut et non pas les choses de ce monde. Mais ils connaîtront la bénédiction d'entrer dans la gloire avec le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a que deux camps, et l'ange nous rappelle cela. C'est l'ange de la destruction, de la colère de Dieu, celui qui tenait les sept coupes remplies des sept derniers fléaux. Mais c'est lui qui annonce et qui vient montrer à Jean la glorification, la gloire de l'Église. Et l'ange, donc, nous décrit l'Église comme une épouse. C'est le deuxième point, l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Et encore une fois, vous allez voir qu'il y a beaucoup de symboles, des symboles qui, en les mettant ensemble, parfois nous perturbent. Mais on va essayer de les voir de manière séparée, pour bien comprendre ce que l'apôtre et le Seigneur Jésus-Christ par l'apôtre Jean veulent nous dire. Donc, deuxième point, l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, Jean voit ce qui se passe donc après le jugement. Il nous décrit ce qui se passe après le jugement. Il regarde vers ce moment où vont avoir lieu les noces de l'agneau quand l'histoire sera accomplie. Les noces qui débutent cette éternité avec le Seigneur Jésus-Christ, une éternité pleine d'amour et de partage. Et là, le langage utilisé quand il parle d'épouse est ce langage de mariage. Et la caractéristique principale du mariage, c'est l'unité. Quatrième mot sur la feuille. C'est l'unité. Un homme et une femme deviennent un. Genèse 2, verset 24, à la fin, ils deviendront une seule chair. Et le mariage grandit quand un homme et une femme deviennent des compagnons, des coéquipiers. Ils apprennent à partager leur fardeau, leur joie. Ils deviennent un. C'est le but. Et le mariage est une image de l'unité parfaite au sens le plus profond que de l'unité que Jésus va établir avec son peuple. Une unité de partage et de plaisir mutuel qui va durer pour toute l'éternité. Comment savoir, comment connaître cette unité? Le langage de que nous avons ici nous le décrit. L'ange parle de la femme de l'agneau. Et le langage n'est pas utilisé par hasard. Dans les deux derniers chapitres de l'Apocalypse, le terme de l'agneau apparaît 7 fois. Et qu'est-ce que cela nous dit? Cela nous dit que la base sur laquelle repose la gloire, la bénédiction, les noces, la certitude de tout l'accomplissement, la base de tout cela, c'est le sacrifice expiatoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela montre que si nous sommes venus à la croix, si nous avons confessé nos péchés, si nous avons regardé à Christ comme notre Seigneur, nous sommes en quelque sorte fiancés à lui. Nous sommes promis à lui. Et c'est une réalité, c'est un fait, nous passerons l'éternité avec lui quand le moment sera venu. Et la base de cela, l'assurance pour cela, se trouve dans le passé, quand l'agneau de Dieu est mort sur la croix pour les péchés de son peuple, pour racheter son peuple. Nous sommes fiancés à Christ, nous ne sommes pas encore entrés dans le mariage. Mais dans le passé, une fiancée était déjà la femme d'eux, était déjà promise. La relation était établie et les obligations faisaient partie des fiançailles. On pense par exemple à Joseph et Marie, qui n'étaient pas encore mariés. Et que Joseph s'est posé des questions avant la naissance du Seigneur Jésus. Ici, non, l'image, c'est que nous sommes fiancé, promis à Christ. La relation, elle est établie, elle est sécurisée par l'Esprit Saint. Et dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 1, verset 14, Paul utilise un terme pour parler du Saint-Esprit. Il parle que l'Esprit Saint est un gage, cinquième mot sur la feuille, il est un gage de notre héritage. Gage, en grec, c'est le terme arabon. Et dans le grec moderne, Arabona veut dire bague de fiançailles. L'Esprit Saint est un gage. Cette bague, elle est sur notre doigt. Le jour est certain d'arriver où nous allons entrer dans un amour glorieux, un amour parfait, un amour éternel avec le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi Jean montre-t-il ces choses à, pourquoi l'ange montre-t-il ces choses à Jean? L'apôtre Jean écrit, je vous le rappelle, à cette église, à ces églises qui souffrent, qui connaissent des difficultés, des tentations, des épreuves dans le monde, comme nous aujourd'hui. Comme nous aujourd'hui. Et le but de l'apôtre Jean n'est pas seulement de nous montrer ce que nous serons, mais de nous rappeler ce que nous sommes déjà aujourd'hui. Nous serons avec Christ pour toujours, oui, mais aujourd'hui nous sommes fiancés à Christ. Et la relation, elle est certaine, elle est établie. Nous sommes lavés par le sang de l'agneau. Et le pardon est un moyen, ce n'est pas le but. C'est un moyen. La justification par la foi n'est pas le but, c'est un moyen. Le but, c'est la relation d'un amour pur et saint entre Christ et son peuple. Et c'est ce qui définit notre vie ici-bas sur terre pendant notre pèlerinage. Nous sommes l'épouse de Christ qui se prépare à la venue de son époux. Nous sommes promis au Fils de Dieu. Notre destinée est certaine et à cause du sacrifice que le Seigneur Jésus-Christ a accompli. C'est pour ça que nous sommes fondamentalement différents de tous ceux qui nous entourent, de tous ceux qui sont en dehors de Christ. Parce que nous lui appartenons, nous lui sommes promis. Et nous attendons ce jour où nous serons avec lui. Être chrétien, nous l'avons déjà dit, ce n'est pas être la même personne que nous étions avec un petit plus. Non, être chrétien, c'est être une nouvelle créature, une nouvelle création, sixième mot sur la feuille. Quelque chose de nouveau. C'est être lié à Christ par son amour sur la croix, et cela pour toujours. Ceux qui ont été lavés par l'agneau sont délivrés du jugement qui attend la grande prostituée Babylone. Et nous sommes sauvés pour la communion éternelle dans l'amour avec le Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que nous sommes en Christ. Et donc, Jean commence par nous décrire l'Église comme étant l'épouse de Christ qui se prépare et il la voit dans la gloire. Mais la métaphore va changer. Et le troisième point, Jean nous décrit l'Église comme étant la ville sainte. Et Jean ne décrit pas un lieu, il décrit un peuple. Ce n'est pas où nous allons, mais c'est ce que nous sommes. Jean est emporté par l'Esprit, nous le disons au verset 10, c'est une grande et haute montagne, et l'ange lui montre la ville. L'ange amène Jean sur la montagne, non pas parce que la montagne est un point de vue où Jean va pouvoir admirer, comme quand on monte sur une montagne pour voir ce qui, la plaine et l'étendue de la plaine. Non, l'ange amène Jean sur la montagne parce que la ville est sur la montagne. Septième mot sur la feuille. La ville est sur la montagne. Et on a déjà vu cela. Apocalypse 14, verset 1. Je regardais, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur le front. Le Seigneur Jésus est sur la montagne de Sion avec son peuple. Et c'est l'accomplissement de l'Ancien Testament. Ésaïe 2, verset 2, par exemple. « Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élevera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. » Ça ne peut pas être la Jérusalem terrestre. Vous avez sans doute vu des images de Jérusalem. On ne peut pas dire que ce soit des hautes montagnes. Il s'agit plutôt de collines. Non, la ville est sur la montagne. Mais on pense aussi à tous ces événements, toutes ces occasions dans les évangiles où, lorsque le Seigneur Jésus faisait face à des difficultés, à des moments difficiles, il allait prier. Où est-ce qu'il allait prier? Il montait sur la montagne. Il montait sur la montagne. Et c'était d'une part pour s'écarter, pour s'éloigner, mais aussi il y avait une communion avec cette réalité future. Il allait symboliquement vers l'endroit où il allait attirer son peuple. Il allait sur la montagne. Et Jean dit donc au verset 10 que l'ange lui montre cette nouvelle Jérusalem, cette ville sainte. Et c'est quelque chose qui est souvent répété dans la parole de Dieu. Le dessein de Dieu est accompli. Dieu demeure avec son peuple pour partager sa gloire. Et il est avec son peuple sur la montagne. Et c'est ce que Dieu avait promis à Abraham. Dieu avait promis deux choses à Abraham. Il avait promis la terre et il avait promis la postérité. Canaan n'était pas la terre, parce qu'Abraham y habita comme étranger. Abraham, nous l'avons dit, attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. La terre promise à Abraham, qui est sa véritable demeure, nous l'avons ici, décrite en Apocalypse 21. C'est la nouvelle Jérusalem. Et la postérité. Dieu avait promis une descendance plus nombreuse que les étoiles. Abraham ne l'a pas vue de son vivant, mais il la verra dans la nouvelle Jérusalem. Il la verra dans la nouvelle Jérusalem. Jean voit cette Jérusalem, nouvelle Jérusalem, l'accomplissement des promesses de Dieu. La ville qui est sur la montagne. Autre symbole. Il voit la ville qui descend d'auprès de Dieu. Jean voit la ville donc, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Et Jean voit une action qui se déroule au présent, une action qui est quelque chose qui est continuel, huitième mot sur la feuille. Ce n'est pas une ville qui est descendue, mais il voit une ville qui ne cesse de descendre. C'est pour ça que les deux images sont difficiles pour nous à mettre ensemble. Mais cela décrit autre chose. Il voit une ville qui ne cesse de descendre. Ça décrit la condition permanente de cette ville. Elle descend d'où ? Elle descend d'auprès de Dieu. Et cela souligne que tout cela est l'œuvre de Dieu. Tout cela est l'œuvre de Dieu, c'est la victoire de Dieu, c'est l'accomplissement des promesses de Dieu, c'est la provision de Dieu. Le caractère éternel de notre demeure dans la gloire vient de Dieu. La ville descend de Dieu. Ce n'est pas l'accomplissement de l'homme, même s'il chante « Stairway to Heaven ». Non, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. C'est le sommet de l'œuvre de Dieu dans la rédemption. La nouvelle Jérusalem descend d'auprès de Dieu. Cette ville s'appelle Jérusalem. Quand on lit l'Ancien Testament, on ne lit pas l'histoire de quelqu'un d'autre. Parfois, certaines personnes nous disent que quand on lit, on ne devrait pas appeler l'Ancien Testament « Ancien Testament ». Ils nous disent qu'il faudrait plutôt l'appeler la Bible des Hébreux. Et en disant cela, ils nous disent que, en fait, cela ne nous concerne pas. Ce n'est pas pour les chrétiens. C'est le livre pour les juifs. Mais c'est faux. C'est faux parce que tout l'Ancien Testament nous prépare pour l'œuvre du Seigneur Jésus. Pour l'œuvre qu'il est venu accomplir à Jérusalem et autour. Il nous décrit les ombres du temple, les sacrificateurs. Et nous sommes tous ramenés en un seul peuple de l'Alliance. Il n'y a plus de voile de séparation, Hébreux 2, verset 11. La ville s'appelle Jérusalem, c'est la cité de la paix, du repos, cette paix, ce repos pour ceux qui sont parfaits en Christ. La nouvelle Jérusalem est décrite comme la ville sainte, neuvième mot sur la feuille. C'est sa caractéristique spéciale. Elle est sainte parce que le but de cette ville, c'est la communion de Dieu avec son peuple. C'est pour ça qu'elle est sainte. C'est pour ça qu'elle doit être sainte. Il y a différentes manières de penser à la sainteté. On peut parler on peut dire que cela signifie être mis à part. Et c'est ce que Dieu a fait de façon définitive pour son peuple. Nous sommes des ustensiles que Dieu a mis à part dans le lieu très saint. Dans le temple, rappelez-vous, il n'y avait rien de spécial entre les ustensiles pour le lieu très saint et les autres, sinon que Dieu avait dit, mettez-les à part. Mettez-les à part pour le service dans le lieu très saint. Ils sont devenus différents. Leur utilisation est devenue différente parce que Dieu l'a décrété ainsi. Parce que Dieu a décidé et a exigé que ces choses soient ainsi. Et c'est la même chose pour nous qui sommes chrétiens. Dieu nous a choisis. Et c'est Dieu qui nous a appelés à être différents. C'est lui qui nous a mis à part. C'est lui qui nous a séparés du reste du monde. Et c'est lui qui fait son œuvre. Il nous met à part. Mais cela, sainteté implique aussi la pureté spirituelle, l'enlèvement du péché. Et notre péché a été lavé à la croix de l'agneau. Mais Jean ici voit la ville sans la corruption du péché. Nous avons encore à lutter, à avoir affaire avec la corruption du péché, qui est toujours dans notre vieille nature. Mais le jour vient où cela ne sera plus le cas. Et Jean nous décrit cette ville qui est sainte. Quand cette Jérusalem descend du ciel, ses habitants ne seront plus seulement libres du péché, mais ils seront libres de même la corruption du péché. Et ils seront saints, entièrement saints, et ils prendront part à la sainteté de Dieu. C'est ce que Jean dit au verset 11. C'est une ville qui a la gloire de Dieu, ayant la gloire de Dieu. C'est baigné dans la gloire de Dieu et de sa sainteté. Moïse, par exemple, avait la gloire de Dieu pour un court moment. Vous vous rappelez de ces instants en Exode 24. Moïse redescend de la montagne, mais il ne sait pas que la peau de son visage rayonne de la même gloire que Dieu, que celle de Dieu avec qui il venait de s'entretenir. Et Paul nous dit en 2 Corinthiens 3 que tout cela est un symbole de ce qui se passe chez le croyant aujourd'hui par le ministère de l'Esprit-Saint dans son cœur. 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés, dixième mot sur la feuille, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Nous qui contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Et c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu, dans la vie des croyants, dans la vie des enfants de Dieu. Nous sommes transformés en son image, de gloire en gloire. C'est ce qui se passe dans la vie des enfants de Dieu. Et Jean le voit donc à la fin de l'histoire, l'œuvre de construction de Dieu, de cette ville nouvelle est terminée quand nous sommes entièrement transformés. Et nous sommes cette ville. L'apôtre Pierre, rappelez-vous, utilise ce langage. Il nous décrit comme des pierres vivantes que Dieu utilise pour construire sa ville, pour construire son temple. L'œuvre sera terminée quand toutes les pierres seront assemblées dans cet édifice. Et nous accomplirons là le but pour lequel l'homme a été créé, porter l'image de Dieu, sans être déformés par le péché. Porter l'image de Dieu de manière parfaite. Jean compare cette sainteté, cette gloire de la ville à une pierre précieuse, verset 11. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. On a quelques difficultés ici avec les termes grecs pour savoir exactement à quelle pierre ils correspondent. Aujourd'hui, le jaspe est une pierre opaque qui n'est pas du tout transparente. Et beaucoup de commentateurs suggèrent que plutôt que de voir la pierre de jaspe, il faudrait voir ici le diamant. Le diamant qui brille, qui reflète la gloire de Dieu de toutes ses facettes. Dans la gloire, le peuple de Dieu va refléter la gloire de Dieu et la perfection de tous ses attributs. Et cela va briller comme un diamant éclate de lumière. Et quel est le but de cette information? Sachant ces choses, nous devons faire correspondre notre vie présente avec cette destinée qui nous attend. Si notre destinée est d'habiter dans la ville sainte, dans la présence de Dieu et de refléter la gloire de Dieu, cette destinée doit affecter notre vie maintenant. 11e mot sur la feuille. C'est vrai pour toute l'Église. La sainteté de l'Église est une question urgente. Trop souvent, l'Église adopte des moyens du monde parce qu'elle recherche le succès tel que le monde le définit. Au lieu de se reposer totalement sur les moyens de grâce que Dieu donne. Bien sûr, on nous dira que nous ne sommes pas à la page, que nous sommes rétrogrades. Aux yeux du monde, nous sommes insignifiants. Mais avec les moyens que Dieu nous donne, sa parole, la prière, une adoration sainte de sa personne, nous goûtons déjà à la vie de cette Jérusalem, de cette nouvelle Jérusalem. Mais si c'est vrai pour l'Église, c'est aussi vrai pour chaque croyant individuellement. Notre destinée avec tous les enfants de Dieu est de refléter la gloire et la beauté du Seigneur Jésus-Christ. C'est un sujet important pour l'apôtre Paul, qui n'a cessé de le rappeler à plusieurs reprises, à souligner aux croyants cette réalité, cette nouvelle identité qui est la leur, qu'ils ne doivent pas suivre le monde, qu'ils ne doivent pas vivre comme le monde, qu'ils ne doivent pas s'intégrer à ce monde, aux ténèbres de ce monde, qu'ils ne doivent pas vivre la vie de péché de ce monde. On a cité Colossiens, par exemple, tout à l'heure. Mais il y a aussi dans la lettre aux Philippiens, chapitre 2, les versets 14 et suivants, « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. » Nous brillons dans ce monde, non pas avec notre gloire, mais avec la parole de vie qui nous habite, qui nous transforme, et l'Esprit de Dieu qui applique cette parole à nos cœurs. Est-ce que notre vie change? Est-ce que nous voyons une dynamique spirituelle qui recherche la sainteté, qui recherche la pureté? Si la vie ne change pas, si l'on veut éviter des choses comme la repentance, la croissance dans la grâce, sur quelle base pourrait-on vivre dans cette nouvelle Jérusalem? Alors bien sûr, certains vont dire, sur la justification par la foi. Et c'est une merveilleuse réalité, c'est une merveilleuse vérité. Le seul fondement pour ma présence dans cette ville, ce sont les mérites du Seigneur Jésus-Christ. L'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, sa justice qui est imputée à chacun de ses enfants, son œuvre d'expiation sur la croix. Mais la justification ne vient jamais seule. Elle mène inévitablement vers d'autres vérités, telles que la croissance dans la grâce. Un enfant ne reste jamais petit, il grandit. Un enfant de Dieu ne peut pas rester petit, il grandit, il croit. Pour savoir qui est justifié, il faut observer qui grandit dans la foi et qui grandit dans la grâce. La profession de foi du bout des lèvres ou la signature d'une carte ou le fait de lever la main lors d'une réunion n'est pas la marque des véritables enfants de Dieu. La marque du croyant, c'est la sainteté avec l'amour. Le sceau qui est posé sur la vie du croyant, c'est le Saint-Esprit, 12e mot sur la feuille, avec l'accent mis sur saint. C'est le Saint-Esprit. Et l'enfant de Dieu recherche la sainteté. La justification est le moyen. Le but, c'est la gloire à venir. Et cela, et nous sommes préparés dès ici-bas. Hébreux 12, verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » En saisissant cela, nous comprenons, nous pouvons comprendre, au moins en partie, la raison derrière les souffrances que nous pouvons connaître pendant notre pèlerinage terrestre. Nous, d'un côté, nous disons, « Oui, j'ai un plan pour ma vie, c'est le bonheur. » Mais Dieu a aussi un plan, et lui, il m'aime beaucoup plus que moi. Je ne peux m'aimer. Et lui, son plan, c'est la sainteté. Et l'épreuve qui ne fait pas partie de mon plan, Dieu souvent choisit l'épreuve pour, à cause justement de la destination vers laquelle il me conduit et pour laquelle il me prépare. Trop souvent, nous mesurons nos vies en fonction des plaisirs que nous pouvons connaître, mais Dieu, lui, nous prépare pour l'éternité. Et c'est souvent par des épreuves. Il veut nous amener à être toujours plus consacrés au Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui habitent cette ville, ceux qui sont cette ville, sont consacrés à Dieu, à Christ, et ils ne se contentent pas d'une simple profession de foi. Jean voit donc cette ville comme une épouse glorieuse, une ville sainte qui descend de Dieu. Mais quatrièmement, Jean nous décrit la muraille de la ville. Verset 12, « Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes et aux portes 12 anges et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. » Beaucoup de commentateurs se posent la question. Je demande pourquoi cette ville doit avoir une muraille, étant donné que tous les ennemis ont été détruits. Mais encore une fois, c'est encore un symbole. Et c'est le symbole de l'engagement de Dieu pour la sécurité de son peuple. 13e mot sur la feuille. Dieu va prendre soin et prend soin de son peuple d'une telle façon que notre salut est entièrement en sécurité. Il y a un cantique en anglais de John Newton je crois, est très connu. Et la première strophe va ainsi. Je vais le dire en anglais puis faire une petite traduction. Il dit ceci. « Glorious things of thee are spoken, Zion, city of our God. He whose word cannot be broken formed thee for his own abode. On the rock of ages founded, what can shake thy sure repose? With salvation's walls surrounded, thou mayst smile at all thy foes. » De glorieuses choses ont été dites de toi, Sion, cité de notre Dieu. Celui dont la parole est certaine t'a formé pour sa propre demeure. Tu es fondé sur le rocher éternel, alors qui peut ébranler ton repos? Entouré par la muraille du salut, tu peux sourire à tous tes ennemis. Et voilà, toute menace que l'on pourrait craindre concernant notre avenir éternel, nous pouvons y faire face, sachant que la muraille du salut entoure l'ensemble du peuple de Dieu. Et cette muraille comporte 12 portes, des grandes portes, pour laisser entrer une foule de personnes. On verra plus tard que cette ville a la forme d'un cube. Mais le verset 13 nous précise donc qu'il y a 3 portes de chaque côté, à l'Orient, au nord, au midi et à l'occident. Parce que les gens viennent des quatre coins du monde. L'Église est composée d'une multitude qui vient de toute tribu, de toute nation, de toute langue, et qui sera réunie dans la Jérusalem céleste. À chaque porte se trouve un ange, verset 12. En Ésaïe 62, verset 6, Dieu avait dit ceci, « Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. » Et ici, en Apocalypse 21, nous avons des anges qui sont des gardiens. Et on se rappelle qu'au début de l'histoire, en Genèse, quand Adam et Ève ont été chassés du jardin, Dieu a placé un ange pour barrer l'accès au jardin, pour barrer l'accès à ceux qui n'avaient pas le droit d'entrer dans le jardin. Et dans tout l'Ancien Testament, la route vers la présence de Dieu est barrée à ceux qui n'ont pas le droit. Elle est barrée. Mais tous ceux qui ont été rachetés par le sang de l'agneau, ils ont un accès libre. Quatorzième mot sur la feuille. Libre, un accès libre dans la présence de Dieu. Et ces anges sont là, aux portes de la ville, afin que n'entrent que ceux qui viennent par le moyen que Dieu a décrété par le Seigneur Jésus-Christ, crucifié et ressuscité. Nous verrons plus tard en Apocalypse 22, verset 14, Jean nous dit, « Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. » Le seul moyen d'entrer dans cette ville gardée par les anges de Dieu, c'est d'être lavé dans le sang de l'agneau. Lavé dans le sang de l'agneau. On se rappelle au chapitre 1er, quand Jésus se révèle à l'apôtre Jean en tenant les chandeliers d'or et les étoiles, et en Apocalypse 1, verset 20, il nous dit « Les sept étoiles sont les anges des sept églises, et les sept chandeliers sont les sept églises. » Et on avait dit que il semblerait que des anges ont la charge de veiller sur les églises. Ces anges savent qui sont le peuple de Dieu. Et ils veilleront à ce que seuls les enfants de Dieu entrent dans la cité. L'homme, dans toute sa faiblesse, peut se tromper lui-même. Il peut même tromper les autres. Mais il ne pourra jamais tromper Dieu ni ses serviteurs. Paul écrit en 2 Timothée 2, verset 19, « Le solide fondement posé par Dieu subsiste, et avec ses paroles qui lui servent de sceau, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. » Les portes ont les 12 noms des 12 tribus des fils d'Israël. On verra un peu plus tard que cela reprend l'imagerie d'Ézéchiel, qui décrivait le temple, et chaque porte avait un nom. L'idée étant que chaque tribu avait son quartier de la ville pour y habiter. Mais ici, ce qui est mis en avant, c'est la totalité, l'intégralité des 12 tribus. C'est une façon de dire que, voilà, le véritable peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, voilà ce qu'il attendait. Il attendait cette cité. Voilà ce que les prophètes ont annoncé. Maintenant, c'est arrivé. Maintenant, tout ce qu'ils attendaient est arrivé. La cité avec des fondements est là. Et ils y entreront. Dieu avait dit par la bouche de Moïse en Exode 19, verset 6, « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Quand on lit l'Ancien Testament, on se dit « c'est pas arrivé dans l'Ancien Testament. » Mais quand on lit l'Apocalypse, on voit que cela est arrivé par le sang du Seigneur Jésus-Christ et par son œuvre. Apocalypse 1, versets 5 et 6. « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. » Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Cette promesse de l'Alliance sera accomplie. Dieu a bien un peuple de sacrificateurs qui sera avec lui pour toujours. Et au verset 14, Jean nous dit que la muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Dans le temps, les villes avec des grandes murailles avaient des fondations qui étaient décorées, que l'on pouvait repérer. On peut aller au mur des Lamentations à Jérusalem et trouver par exemple des pierres qui servent de fondation. Et on peut les identifier parce qu'ils portent des marques pour savoir où ces pierres vont. Ici, sur les fondements de la nouvelle cité, sont inscrits les noms des apôtres. Pourquoi ? Qu'est-ce que cela veut nous dire ? Et cela nous parle du témoignage des apôtres au Seigneur Jésus-Christ. En fait, c'est une autre façon de dire que la parole de Dieu qui a été donnée par les prophètes et par les apôtres est le fondement, 15e mot sur la feuille, le fondement de l'espérance du salut du peuple de Dieu. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. La parole de Dieu qui nous a été donnée par les prophètes et par les apôtres est le fondement de l'espérance du salut du peuple de Dieu. Et cela prouve encore une fois l'unité entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il n'y a qu'un seul peuple de Dieu qui sera réuni à la fin de l'histoire dans la même cité, entouré par la même muraille, pour jouir de la même présence de Dieu. Quel est le fondement de mon espérance ? Quel est le fondement de la ville vers laquelle je me dirige, pour laquelle je suis prêt à souffrir, pour laquelle peut-être je vais même donner ma vie? Le fondement, c'est la parole de Dieu. La parole qui est certaine, la parole qui est sûre, la parole qui est établie. Le Seigneur Jésus a dit en Matthieu 24, verset 35, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Le fondement de cette ville, c'est la parole de Dieu, ce sont les promesses de Dieu. C'est la déclaration apostolique et prophétique que nous avons dans l'Écriture concernant le Seigneur Jésus-Christ. Voilà le fondement sur lequel nous nous appuyons. Que dire pour terminer? Si nous sommes comme Abraham, si nous partageons la même foi qu'Abraham, nous regardons vers ce jour comme Abraham l'a fait, comme les lecteurs du premier siècle l'ont fait. Nous regardons vers cette ville sainte qui doit venir. Abraham a souffert pendant son séjour sur terre. Nous aussi, nous souffrons. Nous souffrons des moqueries. Certains souffrent physiquement dans d'autres parties du monde. Mais si nous levons les yeux vers cette ville avec des fondements, dont Dieu est l'architecte et le constructeur, comme Abraham, nous pourrons persévérer jusqu'au bout. Cette vision a fait une différence dans la vie d'Abraham et elle peut faire une différence aussi dans la nôtre. Dieu a appelé Abraham à quitter sa nation parce que Dieu avait une meilleure destinée pour lui. Abraham a répondu à l'appel, il a vu cette gloire, il a cru. Cela lui fut imputé à justice. Et de même pour nous, Dieu nous appelle à quitter ce monde. Dieu nous appelle à renoncer, 16e mot sur la feuille, à renoncer au plaisir de ce monde, parce qu'il a une meilleure destinée pour nous, qui est bien meilleure que tout ce que ce monde peut nous offrir. Abraham a gardé en vue cette vision. Cela l'a aidé à renoncer aux tentations. Genèse 13, par exemple, Abraham va laisser à Lot le choix. Et c'est Lot qui va choisir les plaines fertiles de Sodome. Lot veut les plaisirs du monde, il est prêt à se compromettre avec le monde. Abraham, non, parce qu'il savait où il allait. Il savait quelle était sa destinée, de même pour nous. Si nous gardons cette vision, cela nous aidera à renoncer aux tentations qui se présentent sur notre chemin. Nous sommes dans ce monde, oui, mais nous ne sommes plus du monde. Si nous sommes à Christ, levons les yeux vers les choses d'en haut et non pas vers les choses de ce monde. Les rêves de ce monde ne doivent pas être nos rêves. Les voix de ce monde ne doivent pas être nos voix. Fixons donc les regards sur les choses d'en haut. Attendons cette cité qui a des fondements, dont l'architecte est le constructeur, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et levons les yeux vers le ciel, vers les choses d'en haut. Christ est assis à la droite de Dieu. Et hâtons ce jour du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu donc nous aide à fixer nos regards, à détourner le regard des choses de ce monde, à fixer nos regards sur les choses d'en haut, sur les choses éternelles, et sur notre Seigneur Jésus-Christ qui revient chercher son peuple. Que Dieu donc bénisse sa parole dans le cœur ce matin. Amen.